Lizzie présente My Dear Fucking Prince de Casey McQuiston, lu par Thomas Dormoy. Pour tous les rêveurs éveillés, tous ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Chapitre 1. Sur le toit de la Maison Blanche, caché dans un recoin de la promenade, il y a un petit pan de lambris qui se détache, juste à côté du solarium. À condition de tapoter le bois juste au bon endroit, on peut le soulever suffisamment pour découvrir en dessous un message gravé à la pointe d'une clé ou peut-être même d'un coupe-papier subtilisé dans l'aile ouest, la partie du bâtiment où se décide le destin du pays. L'histoire secrète des familles présidentielles. Cette fabrique à ragots coupée du monde et tenue, sous peine de mort, à la confidentialité absolue, ne nous dit pas avec certitude qui en est l'auteur. Mais les sources s'accordent au moins sur un point. Seul le fils ou la fille d'un président en exercice aurait eu l'audace de profaner ainsi la Maison Blanche. Pour certains, c'est l'œuvre de Jack, le deuxième fils de Gerald Ford, un passionné de Jimi Hendrix, dont la chambre en duplex donnait directement sur le toit de l'édifice. Idéal pour les pauses clopes nocturnes. D'autres y voient plutôt la main de la jeune Lucy, la fille cadette de Lyndon B. Johnson, avec ses cheveux toujours noués d'un épais ruban. Mais peu importe. L'inscription demeure. Mantra secret adressé à tous ceux qui s'avéreront assez débrouillards pour la trouver. Alex l'avait découverte moins d'une semaine après son installation à la Maison Blanche. Il s'était toujours refusé à révéler comment. Voici ce que dit le graffiti. Règle numéro 1. Surtout, ne jamais se faire prendre. Les chambres est et ouest, situées au centre du premier étage de la célèbre demeure, sont généralement réservées à la famille présidentielle. Au XIXe siècle, elles ne formaient qu'une seule et même vaste suite d'apparats, d'abord réservée au marquis de Lafayette lors de ses visites à Washington sous la présidence Monroe, mais par la suite, l'ensemble a été divisé en deux appartements distincts. Alex a hérité de la pièce la plus à l'est, en face du salon des traités, et June de la plus à l'ouest, à côté de l'ascenseur. Dans la maison où tous deux ont grandi, au Texas, leur chambre était disposée exactement de la même façon de part et d'autre d'un couloir. À l'époque, pour connaître la passion du moment de June, il suffisait d'observer ses murs. À 12 ans, elle les avait tapissés d'aquarelles, et à 15, de calendriers lunaires et de tableaux des cristaux de guérison, classés par type. À peine un an plus tard, changement complet de décor. On pouvait cette fois y découvrir un cocktail composé d'articles du magazine littéraire The Atlantic, d'un fanion de l'Université du Texas à Austin, de portraits de la féministe Gloria Steinem ou de l'écrivaine Zora Neale Hurston, et pour faire bonne mesure, de plusieurs textes de l'activiste Dolores Huerta. Sa chambre à lui, en revanche, avait peu changé au cours des années. Elle s'encombrait simplement un peu plus chaque jour de trophées de lacrosse et de piles vertigineuses de devoirs méticuleusement rédigés. Il détenait probablement le record national de cours avancés de niveau universitaire suivi par un lycéen. Tout ce fatras continue d'ailleurs de prendre la poussière dans la demeure que la famille conserve là-bas, à Austin. Depuis le jour où il l'a tournée dans la serrure avant de partir pour Washington, Alex porte sur une chaîne passée autour de son cou, toujours dissimulée au regard, la clé de la maison de son enfance. À présent, la piole de sa sœur, de l'autre côté du couloir, est toute de blanc immaculé, de rose poudré et de vermante. Inspirée, comme personne ne l'ignore plus, de magazines de décoration des années 60 qu'elle a trouvé un jour dans l'un des petits salons de la Maison Blanche, la suite s'est même retrouvée en photo dans les pages de Vogue, excusez du peu. Sa chambre à lui a autrefois été celle de Caroline Kennedy, enfant, et plus tard, le bureau de Nancy Reagan, ce qui a motivé de la part de June tout un tas de cérémonies de purification vaudou avec force fumigation à la sauge. Si Alex n'a pas touché aux planches botaniques disposées en un carré parfait au-dessus du sofa, il a tout de même repeint en bleu profond les murs roses de Sacha Obama. Il est d'usage, du moins ces dernières décennies, que passé 18 ans, les enfants des présidents quittent la résidence, le bâtiment placé au centre de la Maison Blanche. mais le mois où sa mère a prêté serment, Alex a intégré l'université de Georgetown, à Washington même. Il a donc semblé plus logique à sa famille de simplifier ce casse-tête logistique en s'épargnant la multiplication de dépenses et de mesures de sécurité qu'aurait représenté la location d'un studio étudiant. Et, dès l'automne de la même année, June, fraîchement diplômée de l'Université du Texas, est venue retrouver son frère cadet sous les ordres de la République. Même si elle ne l'a jamais dit, Alex sait bien qu'elle les a rejoints d'abord et avant tout pour le tenir à l'œil. Personne ne sait mieux qu'elle à quel point se retrouver au cœur de l'action, si près du centre névralgique où se jouent les destinées du pays, est pour lui un fruit défendu. On pourrait presque parler d'aphrodisiaque. Elle s'est d'ailleurs vue obligée plus d'une fois de faire usage de la force pour le traîner manu militari hors de l'aile ouest, comme un toxico en manque. Dans son refuge, bien à l'abri derrière sa porte close, Alex peut placer un vinyle de Hall & Oates sur le tourne-disque installé dans un coin de la pièce et s'installer confortablement sur son siège sans craindre qu'on entende fredonner « Rich Girl » comme si souvent son père avant lui. Il peut chausser les lunettes de vue dont il jure pourtant ses grands dieux qu'il n'a aucun besoin. Il peut minutieusement échafauder autant de programmes de révision qu'il le souhaite, tous hérissés d'une forêt de post-it choisis en fonction d'un code couleur bien précis. On ne devient certes pas le plus jeune élu au Congrès de toute l'histoire moderne sans suer sang et eau. Mais pourquoi étaler aux yeux du monde ses efforts désespérés pour y parvenir? Après tout, il ne regarde que lui. Et puis sa réputation de sexe symbole en prendrait un coup. Hello! Penché sur son ordinateur portable, Alex lève les yeux juste à temps pour voir June passer précautionneusement la porte et se glisser dans sa chambre, une assiette à la main, et pas moins de deux iPhones assortis d'une épaisse pile de magazines sous le bras. Lorsqu'elle referme le battant derrière elle d'un bon coup de talon, son frère écarte la paperasse qui encombre le lit pour lui faire de la place. Alors, tu nous as chopé quoi en cuisine? Aujourd'hui, mon petit père, c'est farandole de donuts, répond-elle en s'installant sur le matelas. Elle porte une jupe crayon, rehaussée de ballerines roses à bout pointu. Alex voit déjà d'ici les pages mode de la semaine prochaine. Une photo de la tenue du jour de la jeune fille en tête d'un article, sponsorisé bien sûr, sur le charme intemporel de la ballerine, véritable must du moment pour tout cadre dynamique qui se respecte. À quoi June a-t-elle bien pu passer sa journée? Elle a mentionné un article pour le Washington Post, non? Ou une séance photo pour son blog? Ou les deux? Il peine à suivre le rythme effréné des occupations de la jeune éditorialiste, qui vient de larguer sur le couvre-lit son stock de revues où, sans perdre un instant, elle plonge déjà le nez. Toujours engagée dans la sauvegarde de la grande et belle industrie américaine du ragot abject et sans scrupules? Ironise Alex. Bah, il faut bien que mon diplôme de journalisme serve à quelque chose. Il attrape un donut avant de lancer. Alors, il y a du croustillant cette semaine? Vas-y, fais-moi saliver. Laisse-moi regarder. Ah, InTouch m'a casé avec un mannequin français, figure-toi. Alors, info ou intox? Si seulement c'était vrai. Elle tourne quelques pages. Oh, et tu te serais fait blanchir l'anus, paraît-il.
Oh, mais ça, par contre, c'est la vérité,
réplique Alex, la bouche pleine de chocolat saupoudré de vermicelle. J'en étais sûr, répond June sans lever les yeux. Elle ne tarde pas à achever sa lecture. Une fois l'hebdomadaire épluché dans sa quasi-totalité, elle le fourre sous la pile pour passer à la suite. Mais elle ne feuillette People que d'un œil distrait. Le magazine ne publie rien que les attachés de presse de la Maison-Blanche ne l'aient autorisé à révéler. Bref, il est chiant à mourir.
Pas grand-chose sur nous cette semaine. Si, mon nom sert d'indice à la rubrique mots croisés, tiens.
Pour June, guetter leurs apparitions dans les tabloïds est devenu une sorte de passe-temps récréatif. Un petit jeu qui, tour à tour, a le don d'amuser et d'énerver leur mère. Alex, quant à lui, a juste assez de narcissisme pour laisser sa sœur lui en lire quelques morceaux choisis. Quand elles ne sont pas directement soufflées aux médias par le service communication de la Maison-Blanche, les rumeurs qui les concernent relèvent en général de la pure invention, mais parfois, elles leur valent de sacrés fous rires. S'il avait le choix, Alex préférerait savourer l'une des centaines de fanfictions flatteuses qui circulent sur lui sur Internet.